Europe 1. Écoutez le monde changer.
15h, 16h.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Comment profiter de l'été pour se faire du bien? Comment prendre soin de son corps et de sa tête? Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 16h pour évoquer toutes ces questions. À mes côtés dans ce studio, on retrouve aussi le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous nous parlerez un peu avant 16h de sexologie et nous parlerons aussi de santé au quotidien.
Bah oui, côté sexo, on va se demander en fin d'émission ce qu'est le fameux syndrome du poster central dont souffre beaucoup d'hommes sans le savoir, oui. Et dans les petits gestes importants de l'été, nous allons parler du don de sang.
Et notre dossier du jour est aujourd'hui consacré à la souplesse de nos muscles et de nos articulations. Que faire quand on a l'impression d'être rouillé? Quels sont les étirements conseillés pour soulager le dos? Et comment conserver des muscles souples et détendus à tout âge? Pour en parler, nous sommes avec Vincent Martin, directeur sportif des clubs de remise en forme Néoness. Voilà pour le sommaire, c'est parti pour votre émission Santé sans rendez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
Anne Le Gall vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et l'on démarre comme tous les jours par quelques conseils pratiques pour l'été. Aujourd'hui, Damien Mascret, on parle du don du sang car c'est aussi important de continuer à donner l'été.
Oui, parce que vacances ou pas, eh bien, l'établissement français du sang, l'EFS, qui est chargé de la collecte des dons, a besoin de 10 000 dons par jour. Alors, c'est pas étonnant pour deux raisons essentielles. La première, c'est que chaque année, de toute façon, 1 million de personnes en France ont besoin d'un don de sang. Habituellement, il y a moins de besoins en sang en été parce qu'il y a moins d'opérations planifiées. Mais cet été, avec toutes les interventions qui ont été déprogrammées pendant le confinement, évidemment, il pourrait y avoir des besoins accrus de sang.
Et la deuxième raison?
Alors, la deuxième raison, c'est que tout simplement, les dons ont des durées d'utilisation limitées. Pour les globules rouges, c'est 42 jours. Et pour les plaquettes, c'est seulement 7 jours. Et puis, bien sûr, il y a le plasma qui est aussi très utilisé puisqu'il sert à fabriquer des médicaments, des immunoglobulines, des facteurs de coagulation. L'EFS mène aussi, avec l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, une étude avec le plasma des personnes guéries de la Covid. Et bien sûr, qui sont volontaires pour éventuellement utiliser ce plasma dans les cas de Covid grave, c'est ce qu'on appelle la plasmathérapie.
Alors, l'EFS n'a pas encore fait le bilan de l'opération un mois pour donner qui s'est terminée il y a quelques jours, mais vous avez, Damien, des informations sur les stocks de sang actuels en France.
Oui, les Français sont fortement mobilisés, puisque les réserves en globules rouges sont aujourd'hui de 120 000 poches, alors qu'elles étaient tombées sous les 85 000 début juin. N'hésitez pas donc à donner votre sang cet été, puisque les équipes de l'établissement français du sang organisent des collectes sur les lieux de vacances.
Alors, comment fait-on en pratique? On a une question d'ailleurs de Céline à ce sujet.
Alors, je me pose beaucoup de questions sur le don du sang. Qui peut le donner? Est-ce que tout le monde peut le faire? Comment? Est-ce qu'il y a des choses à faire avant, en amont? Est-ce qu'il faut manger ou pas? Est-ce qu'il faut se faire tester ou pas? Voilà, merci beaucoup.
Une question très pratique.
Oui, alors tout le monde, ou presque, entre 18 et 70 ans, à condition de peser au moins 50 kilos, ça c'est pour les grandes lignes. Bien sûr, il y a d'autres conditions. Le but, c'est d'abord d'assurer la sécurité des donneurs et ensuite de limiter le risque, que le don soit inutile, simplement parce que vous auriez une infection. Alors par exemple, en ce moment, Céline, non, vous ne serez pas testé pour le coronavirus, même s'il y a une enquête de l'EFS avec Pasteur sur l'immunité collective à partir d'échantillons de donneurs. Mais si vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé et, ou probable, on vous demandera d'attendre 14 jours pour donner. Et si vous avez vous-même des syndromes grippaux ou ceux de la Covid, on vous demandera d'attendre 28 jours après l'arrêt des symptômes. Ça, c'est pour éviter que vous contaminiez quelqu'un. Ce n'est pas à cause du sang lui-même, puisqu'il n'y a pas de virus dans le sang, sauf septicémie, les personnes hospitalisées dans un état grave. Ce qui est sûr à ce jour, c'est que malgré des centaines de milliers de transfusions chaque jour dans le monde, il n'y a eu aucun cas de transmission de la Covid rapporté. Évidemment, on peut retrouver tout ça sur le site de l'EFS.
D'accord, aucun cas de transmission de la Covid par le sang. Mais il y a d'autres contre-indications plus habituelles qui empêchent de donner son sang?
Alors oui, il peut y en avoir. Certaines sont liées à votre état de santé récent ou ancien d'ailleurs, à des traitements, des soins, des examens, des symptômes que vous avez. D'autres sont liées au risque d'agents infectieux dans votre sang, par exemple à cause des voyages dans certains pays ou encore de pratiques sexuelles à risque. Le plus souvent, c'est des contre-indications temporaires au don. On doit par exemple, si on a fait un don d'ailleurs, attendre 2 à 8 semaines après ça. Ça dépend du type de don, le temps que votre corps refasse finalement ses stocks. Et puis comme les Français ne peuvent pas beaucoup voyager cet été, l'EFS estime qu'il y aura peut-être moins de contre-indications liées à des voyages dans des zones où circule le paludisme. Ça, c'est intéressant parce que quand on revient d'une zone où il y a du paludisme, on ne peut pas donner de sang pendant 4 mois après le retour.
Ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Comment on s'y retrouve dans tout ça?
Alors oui, ne vous inquiétez pas. Le jour du don, d'abord, vous aurez évidemment un entretien pré-don avec un médecin pour revoir avec vous l'ensemble et voir si vous pouvez effectivement donner ce jour-là. Alors, pour éviter de vous déplacer pour rien dans un des 115 sites fixes ou un des 40 000 sites mobiles de don, vous pouvez aussi répondre à une série de 19 questions sur le site de l'EFS pour voir si vous n'avez pas une contre-indication. L'adresse, c'est don200, tout relié, hein, don200.efs.santé.fr. Si vous n'avez pas de quoi noter, c'est pas grave, vous cherchez juste dans un moteur de recherche don de sang et EFS et vous trouverez le questionnaire, mais aussi les coordonnées des centres les plus proches, hein, finalement, soit votre lieu de vacances, soit votre lieu de résidence, avec en plus les heures d'ouverture et la possibilité de prendre rendez-vous ou pas, ça dépend des centres.
Et alors, est-ce qu'il y a des règles à respecter le jour du don? Céline se demandait, par exemple, s'il fallait manger juste avant.
Oui, alors, d'abord, il faut venir avec une pièce d'identité. Hein. La gamme est assez large, ça peut être une carte d'identité, un passeport, une carte de séjour, une carte professionnelle, un permis de conduire, une carte d'étudiant. Il faut aussi éviter l'alcool dans les heures qui précèdent le don.
Oui. C'est mieux.
C'est mieux. En revanche, il ne faut pas venir à jeun. Hein. Il faut au contraire avoir un petit déjeuner ou un déjeuner équilibré. On recommande qu'il ne soit pas trop gras tout de même. Vous devez boire également de l'eau ou des jus de fruits, d'ailleurs avant et après le don. Après le don, vous aurez aussi une collation qui vous sera donnée pendant que vous vous reposerez un petit peu, parce que le don, ça ne dure pas très longtemps, ça dure une dizaine de minutes. Mais tout compris avec l'entretien, pré-don, le don, le repos, il faut compter plutôt 45 minutes. Et puis bien sûr, si ce jour-là, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas en forme, ce n'est pas la peine d'y aller. Vous décommandez si vous avez pris rendez-vous ou vous n'y allez pas du tout, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas donner.
Merci beaucoup, docteur Damien Mascret, pour cet éclairage. Europe 1. À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré à la souplesse de nos muscles et de nos articulations. Cette souplesse, on ne pense pas toujours à l'entretenir parce que quand on fait du sport, on privilégie plutôt le mouvement, l'endurance, la dépense de calories en général. Et pourtant, cette souplesse est primordiale pour la santé. C'est ce que nous allons voir avec notre invité. À tout de suite.
Europe 1. Sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h et à mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro, et notre invité du jour avec qui nous allons parler de l'entretien de notre souplesse. Alors, une petite définition pour commencer. La souplesse désigne la qualité physique permettant d'accomplir des mouvements corporels avec la plus grande amplitude. On en parle avec vous, Vincent Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur sportif des clubs de gym Néoness à Paris, un réseau de 33 salles. Quand on parle d'amplitude des mouvements, souvent on a des souvenirs d'enfance, de jeunesse qui remontent, le grand écart, voilà, on pouvait facilement toucher ses pieds, faire la roue, faire le pont. Pourquoi est-ce qu'on perd de la souplesse avec l'âge?
Alors, on perd de la souplesse avec l'âge déjà parce qu'on ne l'entretient pas assez. On est avec un acquis de souplesse qui est très important. On pense que c'est une fatalité de perdre sa souplesse, pas du tout.
Ah, ça, c'est une bonne nouvelle déjà.
Voilà. Donc en fait, c'est parce qu'on l'entretient assez peu. Et puis après, il y a une raison aussi physiologique qui fait qu'on va perdre de la souplesse, surtout à partir de l'âge de 20 ans. Parce que dans le corps, on a une diminution du collagène.
D'accord.
Dans les tissus conjonctifs. Donc en fait, on va avoir une baisse du collagène dans les ligaments, dans les tendons, dans les muscles. C'est une matière en fait qui sert à fluidifier un petit peu tous ces éléments qui vont nous aider à être souples.
Ça veut dire que naturellement, les muscles ont tendance à se contracter avec l'âge?
Donc en fait, avec l'âge, on va avoir les muscles qui ont tendance à se contracter, à se raccourcir, également pour les ligaments. Et en fait, on va avoir les muscles qui vont se contracter, mais qui ne vont pas revenir à la place initiale à chaque contraction. Donc c'est très minime, mais répété pendant plusieurs années, on a finalement la sensation du muscle et des tendons, des ligaments qui se raccourcissent.
Damien Mascret.
Et ça, c'est valable même si on garde une petite activité physique?
Quelle que soit l'activité physique, en fait, on doit placer des assouplissements. Si on a une activité physique, une activité musculaire et qu'on ne place pas des assouplissements avec, on perdra de la souplesse. Ce n'est pas l'activité physique en elle-même qui fait qu'on gagne de la souplesse. C'est les assouplissements qui vont avec. Donc ça doit faire partie intégrante de tous les entraînements, quel que soit le sport.
Alors vous nous décrirez des petits exercices pratiques tout à l'heure. Mais juste pour revenir sur l'utilité de la souplesse pour la santé, maux de dos et manque de souplesse, c'est très lié. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Ah oui, c'est très lié. Et en fait, très souvent, on a mal au dos. Alors, pas forcément un manque de souplesse au niveau du dos, ça peut être le cas. Mais parfois, dû à un manque de souplesse dans les zones environnantes. Mmh. Par exemple, il y a énormément de gens qui ont mal en bas du dos parce qu'ils manquent de souplesse au niveau des ischios. Les ischios, c'est les muscles qui sont passés derrière la cuisse.
D'accord.
Très souvent, en fait, il y a une raideur derrière la cuisse qui va provoquer une raideur au niveau du bassin qui va provoquer des maux de dos sur le bas du dos.
Donc il faudrait toucher ses pieds pour assouplir tout
ça. Voilà, il faudrait assouplir l'ensemble du corps. Très souvent, si l'erreur qu'on fait, c'est que lorsqu'on a une contracture quelque part, on va assouplir uniquement cette zone.
On dit aussi que le manque de souplesse peut entraîner des maux de tête ou de nuque.
Ah oui, bien sûr. En fait, on va travailler la souplesse sur les muscles, ce qu'on appelle les muscles apparents, les muscles de mouvement, mais également travailler la souplesse sur les muscles posturaux. Donc, si on a les muscles posturaux qui ne sont pas souples, ils vont se déplacer. S'ils se déplacent, on a des douleurs articulaires, par exemple des douleurs de nuque.
Damien Mascret.
Oui, on pense surtout qu'on a mal au dos parce qu'on a une mauvaise position. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui l'expliquent du côté de la souplesse, hein. Je ne parle pas des pathologies, évidemment.
Bien sûr. Ben en fait, on va avoir le dos qui est mal placé parce qu'on a les muscles, principalement les muscles posturaux, qui sont mal placés. Et pourquoi ils sont mal placés? C'est qu'à chaque mouvement, ils ont eu une contraction, mais ils n'ont pas eu la souplesse pour revenir à l'emplacement initial. Donc en fait, l'accumulation des mouvements et le manque de souplesse également accumulés font qu'on a les muscles posturaux qui ne sont pas bien placés, les articulations qui ne sont pas bien placées, le squelette qui se déplace aussi. Et puis là, c'est un enchaînement de maux qui sont après assez durs à résoudre.
La génétique compte beaucoup dans le fait d'être souple ou pas, ou c'est l'exercice qui fait la différence?
Alors bien sûr, la génétique joue beaucoup. On a un patrimoine génétique où on est souple ou pas. Il y a aussi, on s'est rendu compte sur des études dues à notamment aux certaines différences au niveau du squelette, les femmes sont souvent plus souples que les hommes.
Donc c'est pas une légende.
Voilà, c'est pas une légende. Notamment, on peut voir au niveau du bassin, on n'a pas le bassin qui est formé de la même manière. Mm-hmm. Et on a des fois des contraintes osseuses qui font qu'on n'a pas la même souplesse aux mêmes endroits.
Damien Mascret.
Oui, bah d'ailleurs, on sait aussi qu'il y a des imprégnations hormonales qui vont jouer un rôle. La preuve, c'est qu'au moment de la grossesse, par exemple, vous avez ces fameux ligaments au niveau du bassin qui vont se distendre un petit peu naturellement. La nature, pour le coup, est bien faite et pour permettre justement des déplacements qui n'auraient pas lieu en temps normal. Donc, l'imprégnation hormonale peut aussi jouer un rôle. Mais du coup, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que vous voyez une différence de souplesse après la ménopause de façon frappante ou c'est progressif?
Alors vraiment, tout dépend du passé sportif et du passé, on va dire, stretching de la personne. Quelqu'un qui s'est étiré toute sa vie, alors pas de manière intense, juste de manière régulière, quelqu'un qui s'est étiré régulièrement toute sa vie va garder exactement la même souplesse de 7 à 77 ans. Il n'y a absolument pas de dégradation de la souplesse si on l'entretient. Par contre, clairement, des personnes après, par exemple après la ménopause, qui sont sédentaires, vont avoir des problèmes de souplesse qui vont être énormes avec tous les problèmes comme l'arthrose qui vont s'accumuler et s'ajouter.
Et quelqu'un qui, au contraire, ne s'est pas entraîné, il peut retrouver sa souplesse d'enfance?
Je vous vois venir là, Anne.
Bien sûr.
Je suis un petit peu raide. Mais...
on peut la retrouver, ça va être très progressif, il ne faut pas être trop pressé. Et puis surtout, là, on a une capacité de progression qui est totalement différente d'une personne à l'autre.
Mais vous dites, on peut récupérer quand même de la souplesse à n'importe quel âge? Même à 70 ans, 60 ans.
On peut récupérer de la souplesse à n'importe quel âge. Il faut être accompagné d'un professionnel. Et puis surtout, il faut y aller de manière très régulière et mettre en place une périodisation d'entraînement qui font qu'on va bien répartir les séances d'étirement.
On reste ensemble, Vincent Martin. Dans un instant, on continue de parler de la bonne santé de nos muscles et de nos articulations. Et on va passer aux exercices pratiques avec vous.
Europe 1.
Quels sont les étirements qui peuvent nous éviter les problèmes de dos? Faut-il faire des assouplissements le matin ou le soir? À quelle fréquence? Toutes les réponses avec notre coach sportif dans un instant.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Anne Le Gall.
Sans rendez-vous, c'est votre émission Santé et bien-être sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Comment entretenir notre souplesse et notre capital musculaire et articulaire? C'est le dossier du jour. Pour en parler, nous sommes en studio avec Vincent Martin, directeur sportif des clubs de remise en forme Néoness, et en studio aussi avec le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Vincent Martin, on le disait, on va passer aux conseils pratiques. Nous allons voir donc comment entretenir notre souplesse à tout âge. Alors déjà, en préambule, pour celui qui n'a pas fait de gym pendant l'enfance, ni de danse, par quoi on peut commencer? Déjà, comme petit exercice simple, par quel muscle, en fait, il faut commencer l'assouplissement?
Comme on l'a dit tout à l'heure, la grande partie des gens qui travaillent dans un bureau ou même qui conduisent, par exemple, très souvent, ont des gros problèmes au niveau de la nuque.
Qu'on reste trop souvent assis.
On reste trop souvent assis, on est penché vers un ordinateur ou penché vers un smartphone en permanence ou penché vers, vers le volant pour certains. Ou voilà, enfin, on a la tête qui part en avant. Je pense qu'on sera tous des tortues d'ici quelques années. Donc en fait, il faut absolument qu'on travaille sur cette souplesse de la nuque et qu'on fasse des étirements régulièrement, même de manière quotidienne, pour essayer de lutter un petit peu contre ce fléau.
Alors concrètement, on fait quoi pour se redresser?
Alors tout simplement, par exemple, au niveau de la nuque, donc on se met le dos bien droit, on enroule les épaules vers l'arrière, on va laisser tomber très doucement la tête vers l'avant pour rapprocher le menton
de
la poitrine. On va laisser repartir la tête en arrière, on va le faire plusieurs fois, et ensuite on va faire la même chose à gauche et à droite. Une fois qu'on a fait ça, devant, derrière, à gauche et à droite, on peut faire des cercles très lents d'un côté, puis de l'autre.
Donc on bouge la tête.
Voilà, on bouge la tête. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, moi ce que j'ai vu dans certains bureaux, c'est un collègue qui arrive et qui vous fait craquer la nuque. Surtout pas. Ou qui va vous masser pendant quelques secondes de manière très virulente la nuque. On risque de se déplacer quelque chose. Vaut mieux s'étirer comme ça tout seul et se décontracter la nuque et le faire souvent. On peut le répéter une fois toutes les heures et ça va limiter fortement les problèmes.
Damien Mascret.
Oui, c'est vrai que la nuque, on n'y pense pas. On a l'impression que la nuque est très robuste finalement, alors qu'en fait, c'est une articulation, des articulations très délicates. Et effectivement, vous parliez des smartphones. On sait que la pression qui s'exerce sur certaines surfaces articulaires, quand on a la tête penchée de 45, 50 ou plus degrés, et ce qui arrive effectivement de façon prolongée, c'est une catastrophe pour les articulations du cou. Alors c'est vrai aussi que vous avez raison d'insister sur la lenteur du mouvement. Mais j'ai quand même une question sur l'amplitude. Là aussi, est-ce qu'on doit essayer d'aller loin en douceur? Quel est le signal qu'on va pas trop loin?
Est-ce que ça doit faire mal quand on s'étire?
Oui. Aucun étirement ne doit faire mal. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous dit le contraire ou si vous avez un prof de yoga ou autre qui vous dit « allez chercher la douleur », fuyez tout de suite. Il ne faut jamais que ça fasse mal. Autant dans certaines activités sportives, on va pousser les gens à sortir de leur zone de confort. Dans les étirements, on ne doit jamais sortir de sa zone de confort. À partir du moment où vous sentez une douleur, c'est que c'est anormal et vous risquez d'avoir des micro-lésions ligamentaires ou musculaires, surtout pas.
Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On continue le mouvement, on s'arrête, on ne va pas plus loin,
non,
on respire
Dès qu'on sent qu'il y a une petite douleur, c'est qu'on a atteint la limite du moment. Et de toute façon, avec des entraînements réguliers, la limite du jour ne sera pas la même dans les jours suivants. Donc, patience et puis ça viendra progressivement.
Alors, on dit souvent qu'il faut respirer quand on fait des exercices d'assouplissement. C'est pour se détendre psychiquement ou aussi, c'est aussi l'effet de l'oxygène sur le muscle?
Alors, on oxygène le muscle, on oxygène le cerveau. Et puis surtout, le fait de respirer profondément nous permet de nous concentrer sur ce qu'on est en train de faire. On parle beaucoup en ce moment de vivre l'instant présent. Lorsqu'on s'étire, lorsqu'on respire profondément, c'est le moment idéal pour se recentrer, se concentrer et se vider la tête aussi.
On va continuer les exercices pratiques. Donc, on a vu pour la nuque qu'on pouvait faire des mouvements de la tête. Pour soulager le dos ou des jambes un peu raides, qu'est-ce qu'on fait?
Le dos, on a aussi très souvent mal en bas du dos où on peut s'allonger. Donc là, par contre, on ne peut pas le faire n'importe où comme pour la nuque. On se met sur le sol et on va ramener les deux genoux vers le thorax.
D'accord.
On tire doucement vers nous. On relâche, on va le refaire plusieurs fois. Et ce qu'on peut faire aussi, on est sur le dos, on ramène donc les genoux vers soi, vers le thorax. Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, on peut garder les genoux vers soi et faire de légers petits cercles dans un sens et dans l'autre, qui va avoir aussi un effet d'automassage sur le dos, notamment sur les grands ronds, les rhomboïdes.
Damien Mascret.
Oui, qui doit éviter en tout cas de se lancer dans des exercices d'assouplissement seul, je pense au dos en particulier. Est-ce qu'il y a des gens pour qui vous dites clairement, non là il faut en tout cas la première fois ou les premières fois le faire en étant coaché, assisté, surveillé?
De toute façon, idéalement, toute activité sportive que l'on prend, qu'on commence ou que l'on reprend, vaut mieux toujours être accompagné d'un professionnel. Maintenant, bien sûr, des gens qui ont eu des lésions musculaires, des déchirures par exemple, il ne faut surtout pas se lancer tout seul et il ne faut surtout pas se lancer sans avoir fait un bilan médical. Ou des personnes qui ont eu une hernie discale. Ça arrive très souvent. Des gens qui ont eu une hernie discale, par peur que ça revienne, ils disent « bon allez, je vais me lancer dans des entraînements un petit peu en solo sans demander de conseil à personne et puis je vais faire des étirements tout seul ou je vais faire du renforcement musculaire tout seul ». Et là, très souvent, ils se reblessent.
Oui, il faut rappeler, parce que c'est vrai qu'on a longtemps dit aux gens qui avaient mal au dos qu'il fallait rien faire, un peu comme les sciatiques d'ailleurs.
Oui.
Et maintenant, on n'est plus du tout dans cette dynamique.
On
est au contraire
le
mouvement, la reprise de l'exercice. Alors effectivement, de façon contrôlée, de façon modérée, mais c'est évidemment bon au contraire pour l'organisme.
Les douleurs dans le dos et les jambes raides, c'est souvent lié. Il faut d'abord assouplir l'arrière des jambes ou les muscles qui sont devant?
Alors ça, on est aussi assez inégal. Il y a des gens qui ont les quadriceps, donc les muscles devant les cuisses qui sont plus tendus que l'arrière, ça dépend. Très souvent, c'est vrai qu'on a souvent les ischios derrière qui sont plus tendus que les quadriceps. Pour se détendre les ischios, c'est assez simple. Vous pouvez être assis, vous relevez la pointe des pieds et vous laissez tomber doucement le tronc vers les jambes sans plier les jambes. Pareil, dès que vous sentez que la douleur...
Ça tire vite.
Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. L'idée où on doit absolument poser le front sur les genoux est totalement fausse. Ou attraper les chevilles avec les mains, c'est faux. À partir du moment où vous sentez un étirement, c'est que vous travaillez.
Alors, cet exercice, typiquement, on le fait à quelle fréquence quand vous dites on le fait, c'est-à-dire on le fait une fois et c'est tout, on le fait plusieurs fois, comment ça se passe?
Alors, idéalement, pour quelqu'un qui commence, on va faire des étirements qui ne vont pas durer plus de 10 secondes. Voilà, vous comptez jusqu'à 10, vous faites 10 inspirations et expirations profondes, ça suffit largement, on se redresse, on attend une trentaine de secondes et on recommence. Il n'y a pas besoin d'enchaîner les mouvements de manière trop rapide. Il faut qu'on ait un flow continu avec une légère pause entre chaque. Il ne faut pas choquer le corps comme dans toute activité sportive. Il faut bien comprendre que les assouplissements et le stretching, c'est une activité sportive à part entière. Très souvent, on l'a mis comme une annexe qu'on fait si on a le temps, souvent les gens se disent « Ah bah tiens, il me reste 10 minutes, je vais m'étirer ». Et en fait, ils ne l'intègrent pas dans une routine d'entraînement. Il faut absolument le placer parce que ça fait partie intégrante de tous les entraînements.
Et on peut s'étirer le matin à froid, au réveil ?
Alors oui, bien sûr, on peut s'étirer le matin à froid. Bon, peut-être pas au saut du lit, mais une fois que vous avez bu quelque chose, vous avez mangé un petit peu, que vous avez un petit peu marché dans votre appartement, vous pouvez vous étirer, ça va vous aider à vous réveiller, ça va lancer un petit peu votre métabolisme de manière souple. Donc on peut tout à fait s'étirer le matin. Il y a énormément de gens, par exemple, qui font une séance de yoga le matin pour lancer leur journée et lancer leur corps. Donc oui, tout à fait.
Damien Mascret.
Oui, Anne parlait effectivement du cou, du dos, des jambes. On doit faire toute une séquence comme ça, de la tête aux pieds. Il y a des choses qu'elle a oubliées d'ailleurs.
Ah bah, idéalement, c'est vraiment de faire un travail vraiment global du corps. Après, c'est sûr qu'on va privilégier les zones où on se sent peut-être tendu, mais le corps est une horloge bien réglée. À partir du moment où on va négliger certains muscles, on va le ressentir un jour ou l'autre. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de se faire coacher, de se faire encadrer. On va avoir des muscles qu'on va peut-être négliger, on risque de le payer un jour ou l'autre. Quand vous parliez, par exemple, des maux de dos, où pendant très longtemps, on a dit aux gens « ne faites rien », ou à un moment, c'était « faites du renforcement musculaire », et puis on est obligé de dire aux gens « faites des assouplissements ». Et finalement, on se rend compte que des trois, bah, le plus efficace, c'est finalement d'être souple. Les gens qui font rien ont des problèmes de dos, les gens qui font trop de musculation notamment ont des problèmes de dos. Par contre, les gens qui font trop de stretching n'ont jamais de problèmes de dos. Donc, il vaut mieux en faire trop et sur l'ensemble du corps et être bien guidé à ce niveau-là.
Quand on pense étirement, on pense tai chi, yoga, stretching. Est-ce qu'il y a d'autres sports auxquels on ne pense pas qui sont pourtant bons pour l'assouplissement musculaire?
Il va y avoir aussi toutes les activités de danse. Alors, je parle de danse de loisirs. Les danses, notamment la danse classique qui est poussée à l'extrême, ça, c'est des activités d'étirement qui sont des activités d'étirement de performance. Mais quelqu'un qui va pratiquer la danse classique ou la danse contemporaine en loisir, il va y avoir des mouvements amples, des amplitudes articulaires et musculaires qui vont être demandées, qui sont très bénéfiques pour le corps.
Le tango, d'ailleurs, est très bon aussi pour l'équilibre. On recommande, donc, c'est dommage qu'il y ait moins de gens qui le dansent, parce que pour les personnes âgées, le tango est un très bon exercice pour entretenir l'équilibre.
Et c'est très bon en rééducation cardiaque aussi.
Ben voilà.
On va poursuivre cette discussion dans un instant avec vous, Vincent Martin. On rappelle que vous êtes directeur sportif des clubs Néonès, et on va voir qu'au-delà des exercices, il y a aussi de bons réflexes à avoir au quotidien pour préserver la santé de ses muscles, et notamment en termes d'alimentation. A tout de suite.
Europe 1, Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être, et nous parlons aujourd'hui de l'entretien de notre souplesse musculaire et articulaire. Nous sommes toujours avec le docteur Damien Mascret en studio, et notre invité du jour, Vincent Martin, directeur sportif des clubs de remise en forme Néonès. Alors quand on entre, Vincent Martin, dans certaines pharmacies ou parapharmacies, on est assez surpris par l'étendue du rayonnage pour toutes les gélules, les tisanes qui concernent la jeunesse des articulations, la souplesse du corps. Est-ce que ces compléments alimentaires ont une utilité ?
Les compléments alimentaires ont une utilité pour les personnes qui n'ont pas une alimentation équilibrée et riche. Si on a une alimentation équilibrée et riche, alors je ne parle pas d'une alimentation riche en termes de calories. Je parle d'une alimentation riche en termes de diversité et d'énergie dans les aliments. Si on a une alimentation qui est variée, on n'a pas besoin de compléments alimentaires.
Et le magnésium, par exemple, pour avoir des muscles plus détendus, ça sert à quelque chose ?
Il y a certaines personnes qui, génétiquement, ont des carences en magnésium. Dans ce cas-là, il faut voir avec son médecin si réellement on en a besoin. Les gens qui, parce qu'ils sont stressés, vont systématiquement dans une pharmacie acheter une boîte de magnésium, il faut peut-être qu'ils refassent un bilan global de leur vie pour savoir pourquoi ils sont aussi stressés et pourquoi ils ont besoin de magnésium. Parce que ça va être un effet placebo et une solution à très court terme.
Damien Mascret ?
Oui, je pense que c'est extrêmement important ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, il y a des compléments ou il y a des apports qui peuvent être intéressants pour des personnes carencées. Et c'est évidemment dans ce cadre-là qu'elles sont prescrites en général par les médecins, mais qui effectivement n'ont pas d'intérêt quand vous avez justement des apports équilibrés et votre organisme fera toujours mieux le travail que ne le fera un apport extérieur. Alors il peut y avoir des situations particulières, bien sûr. Encore une fois, c'est avec le médecin qu'il faut le voir. Mais il faut vraiment se méfier de cette mode de consommer, de commander éventuellement sur Internet simplement parce qu'on a vu qu'il y avait de la glucosamine dedans ou des choses comme ça et qu'on a lu quelque part que c'était bon pour les articulations. Là aussi, il y a beaucoup d'extrapolations faites à partir de situations de maladie, par exemple, de carence, évidemment, ou de fonctionnement normal de l'articulation, mais qui n'ont pas prouvé leurs bénéfices. Non seulement ça, mais qui en plus parfois sont délétères. Il y a régulièrement des alertes des autorités sanitaires, soit parce que les produits n'étaient pas bien conçus, soit parce qu'ils étaient surdosés. Et il peut y avoir effectivement des inconvénients dans ce cas-là.
Alors on entend dire aussi que parfois que la consommation de lait peut entraîner des inflammations articulaires. Qu'est-ce que vous en dites, Vincent Martin ?
Alors sur ça aussi, on est très inégaux. On peut faire une étude qui va nous démontrer si on est plus ou moins intolérant au lait. Quoi qu'il en soit, le corps humain n'est pas fait pour consommer du lait de vache. On n'est pas fait pour consommer le lait d'une bête qui fait 20 fois notre poids.
Parce que c'est trop riche ?
Parce que c'est trop riche, parce que le lait de vache est fait pour des veaux et n'est pas fait pour des humains. Et si on doit consommer du lait, il vaut mieux se recentrer sur du lait d'animaux de plus petit gabarit, comme par exemple du lait de chèvre.
D'accord, du lait de chèvre plutôt. Vincent Mascret ? Damien Mascret, pardon. Vincent Martin ?
C'est pas grave.
Damien Mascret.
Oui, alors, c'est vrai que quand, parfois, à partir d'un certain âge, on perd les enzymes qui permettent effectivement de bien métaboliser. Quand on est enfant, il y a moins de risques quand même. Hein, mais c'est vrai que chez les adultes, il y en a certains. D'ailleurs, c'est pas difficile à savoir, hein, parce qu'en général, ces gens-là, s'ils consomment du lait, de toute façon, ils ne supportent pas. Et souvent, ils vont dire qu'ils n'aiment pas ça, alors que simplement, ils ne le supportent pas.
D'accord. Alors, dans l'alimentation, il y a aussi l'hydratation. Alors là, en revanche, c'est hyper important pour les muscles.
Ah bah, c'est hyper important. Les muscles, les tissus conjonctifs qui sont donc les ligaments, les tendons, les muscles sont constitués à presque 70% d'eau. Donc si on ne s'hydrate pas, on va avoir du mal à les alimenter, on va avoir du mal à les rendre plus forts, plus souples, plus performants, plus rapides. L'hydratation comme les assouplissements font partie intégrante de tout entraînement, quel que soit notre niveau. Donc, il est essentiel de boire.
1,5 litre par jour.
Alors, entre 1 litre et 1,5 litre pour quelqu'un qui est assez sédentaire, pour un sportif, on peut facilement doubler.
Damien Mascret.
Oui, parce que c'est effectivement la consommation de base hein, pour que votre corps fonctionne, votre organisme renouvelle en permanence ses cellules. Mais évidemment que quand on fait du sport ou une activité physique, évidemment que quand il fait chaud, on doit boire beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que certains sportifs ont du mal, je ne sais pas si ça vous arrive dans vos salles, effectivement, mais certains sportifs disent qu'ils ne veulent pas boire pendant l'effort, ce qui là est souvent une catastrophe pour l'organisme.
Vous confirmez ?
Ouais, il y en a, et notamment des personnes qui essayent de sécher à l'approche de l'été. Ils sont persuadés que s'ils boivent trop, ils vont faire de la rétention d'eau. Ils vont avoir la peau qui va s'épaissir et qui vont donc avoir des muscles qui vont être moins apparents. Ce qui est totalement faux. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que s'ils ne boivent pas, ils vont, au lieu d'anaboliser et de construire du muscle, ils risquent de cataboliser. Donc en fait, ils vont s'entraîner et en s'entraînant et en buvant peu, ils vont détruire du muscle. Donc ils vont régresser. Limite, vaut mieux qu'ils restent chez eux à regarder la télé à ce moment-là.
D'accord. Et alors, niveau mode de vie, donc le tabac et l'alcool, évidemment, c'est à proscrire si on veut entretenir sa souplesse.
Bien sûr. L'alcool, déjà, encourage la déshydratation. L'alcool est très sucré, donc ce qui n'est pas bon pour le corps de manière globale et puis pour la construction musculaire. Et puis le tabac également. Le tabac entraîne une déshydratation. Ça peut même, on a bien vu dans les dernières études, que ça modifiait même l'ADN de certaines personnes. Donc c'est ultra nocif.
Damien Mascret.
Oui, et le tabac, on rappelle aussi que ça modifie évidemment le système cardiovasculaire, l'élasticité des parois, la micro-circulation. Et donc, de même qu'il ne faut pas fumer avant l'effort, dans les deux heures qui suivent l'effort, attention aussi, si vous êtes fumeur, évidemment, vous ne pouvez pas fumer du tout, mais si vous êtes fumeur, abstenez-vous dans les deux heures qui suivent l'effort pour la récupération.
Alors, après l'effort, justement, parfois...
Le réconfort.
Le réconfort, et on se dit qu'un petit massage, ça peut faire du bien. Est-ce que vous confirmez cette utilité du massage pour éliminer notamment les toxines dans le muscle et éventuellement l'assouplir ?
Alors, le massage pour récupérer d'un entraînement, c'est une idée préconçue. C'est-à-dire que le massage, par exemple, le massage que tous les cyclistes ont après une étape du Tour de France, ça a plus un rôle psychologique et de détente que de réelle récupération musculaire. Le meilleur moyen...
Ça ne permet pas d'éliminer certains éléments.
Non, ça c'est faux. Ça a été prouvé que non. Les cyclistes ou les footballeurs de temps en temps, mais par exemple les cyclistes ou les coureurs à pied aiment bien avoir leur massage après parce que ça leur permet de se détendre, de couper avec le moment de compétition et de vraiment rentrer dans la récupération. Le meilleur moyen pour récupérer, c'est de s'hydrater, de s'alimenter et de dormir, d'avoir une récupération totalement inactive. Maintenant, on peut gagner en souplesse à nouveau grâce au massage.
Ça, c'est pour les personnes âgées, par exemple, une piste qui n'est pas souvent explorée.
Voilà, exactement. Pour les personnes âgées, on peut les masser. Pour les gens qui n'ont pas la force ou
de
faire des exercices, de faire les mouvements appropriés pour gagner en souplesse, on peut les masser. C'est ce qui se fait, par exemple, très souvent dans des pays d'Extrême-Orient comme en Inde, où la première chose qu'ils font lorsque des gens s'occupent de personnes âgées, dès que la personne se réveille, avant même qu'elle mange, on lui donne un verre d'eau et on la masse. Ce qui lui permet,
ça donne une certaine mobilité.
Ce qui lui permet d'avoir une certaine mobilité et de gagner en souplesse.
Oui. Damien Mascret.
Et puis, au cours du massage, en plus, on a souvent une mobilisation des articulations. Et là, dans cette idée que moins on les bouge et effectivement, et plus on s'enraidit, eh bien, c'est tout bénéfice pour l'articulation.
Voilà, mais avec tous ces conseils, on sait comment ne pas s'enraidir, justement. Merci beaucoup, Vincent Martin, de nous avoir apporté vos conseils. On rappelle que vous êtes directeur sportif des clubs Néonès. Très bonne journée à vous.
Europe 1.
Votre émission Santé sans rendez-vous continue dans un instant avec des conseils pour booster son mental et mieux communiquer pendant l'été et la chronique sexo de Damien Mascret. À tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours jusqu'à 16h. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours, vers 15h45, nous retrouvons notre expert qui nous donne des pistes, des idées, des conseils pour améliorer notre bien-être au quotidien. Bonjour Isabelle Payot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes psychologue spécialiste de la famille et des apprentissages. Si l'on vous demande, Isabelle Payot, trois idées pour vivre en bonne harmonie avec ses ados en vacances, qu'est-ce que vous nous dites ?
Eh bien, actuellement, ce que je vous dis, c'est premièrement de la déconnexion pour tout le monde de façon à ce qu'on se retrouve. On a beaucoup, notamment avec le confinement, les ados sont restés beaucoup sur les écrans. Mmh. Les parents ont été beaucoup sur les écrans également. Donc, pendant les vacances, il y a des parents qui sont assez malins, qui louent une maison dans des zones blanches, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de wifi,
c'est une idée.
C'est une idée. Et quand on n'a pas loué une maison à cet endroit-là, ou qu'on est dans un endroit où il y a du réseau, ben voilà, de se mettre d'accord pour dire il y a un temps de déconnexion, mais un temps de déconnexion pour tout le monde, c'est-à-dire parents y compris. On pose son téléphone, on pose sa tablette, on garde un temps peut-être au moment de la sieste, on reprend le téléphone si nécessaire ou en fin de journée, mais de vraiment, vraiment couper. C'est le meilleur moyen de se rencontrer, d'être en lien, de pouvoir parler, de pouvoir reconnecter avec son ado.
Avec son ado. Damien Mascret, une question pour vous.
Oui, quand vous dites déconnexion, on se met d'accord. Alors, c'est peut-être pas toujours facile de se mettre d'accord, mais ça veut dire un petit moment réservé, effectivement, pour cette déconnexion, ou à l'inverse, un moment réservé pour la connexion ?
C'est plutôt, pendant les vacances, un moment réservé pour la connexion.
D'accord.
C'est l'inverse. C'est-à-dire que là, on va vraiment... l'idée est on se déconnecte parce que c'est les vacances, on doit couper et on se retrouve en famille et on va avoir un petit temps pour se connecter. Et c'est valable aussi pour les parents parce que les parents sont souvent critiques, mais en fait, ils restent beaucoup connectés, ils répondent à des appels de travail, ils regardent leur mail, etc. Et c'est pas des vacances et du coup, les ados se sentent... abandonner un petit peu. Ils se disent, de toute façon, mes parents s'en foutent de moi. Ils ont d'autres choses plus intéressantes à faire. En résumé, sur ce que j'entends en consultation.
Oui, c'est aussi un biais qu'on a parfois quand on discute avec un ado, de soi-même avoir l'œil attiré par son téléphone ou une tablette. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude de les poser sur le côté. Et quand on discute, on discute.
Donc, pour bien vivre... c'est de la pédagogie par l'exemple, pardon. C'est vraiment pédagogie par exemple.
Entendu. Donc, pour bien vivre avec son ado en vacances, donc, premier conseil, on se déconnecte des écrans. Mm-hmm. Votre deuxième conseil, Isabelle Payot?
Le deuxième conseil, c'est vraiment de... Alors ça, j'en appelle aux parents, s'il vous plaît, suspendez votre jugement. J'entends des remarques et regarde ton accoutrement, t'es lymphatique, regarde comment t'es, que tu ressembles à rien. Enfin, moi, je trouve ça terrible.
C'est alors, comment faudrait formuler les choses?
Donc, il y a vraiment à suspendre le jugement. Alors, aussi bien, c'est souvent du jugement négatif, mais même le jugement positif en disant « Ah, c'est bien comme t'es habillée » ou « C'est bien », etc. Donc, le « c'est bien » ou le « c'est pas bien », ça fait jamais du bien à personne. On n'aime pas être jugé. Donc, on suspend ce jugement, même si on a envie de dire quelque chose, et ben on va rien dire. On va le garder dans sa poche et puis on fait attention parce que bien sûr que vous avez des sentiments qui sont forts, vous aimez votre ado de façon inconditionnelle, mais la relation, peut-être, elle n'est pas si bonne que ça. Et quand on entretient cette relation avec beaucoup de jugement, eh bien, ils peuvent percevoir qu'on ne les aime plus autant qu'on les aimait quand ils étaient plus petits, plus gentils, plus dociles, plus mignons. Donc attention à ça, suspendre le jugement, même si j'ai envie de le dire, je vais rien dire, ou je vais formuler ça sans l'attaquer sur son physique, sur sa manière de faire. Et je vais plutôt parler de moi et de mon ressenti.
Donc, on suspend son jugement face à un ado qui se cherche et qui doute. Et donc, ça peut faire des dégâts, effectivement. Votre troisième conseil?
Le troisième conseil, c'est vraiment ce que j'appellerais du renforcement positif, de pouvoir aussi lui dire merci quand il fait des choses qu'on attend de lui, bien évidemment, mais de ne pas penser que c'est si naturel que ça. Donc, s'il met la table, on peut lui dire « Merci, tu as mis la table, je te remercie de m'avoir aidé. » Donc, ça paraît bête. C'est souvent ce qu'on dit aux enfants petits, et puis tout d'un coup, on oublie de le dire aux adolescents. Or, leur besoin affectif, il est quasiment le même qu'un enfant de 4 ans. Donc, du coup, de dire « Merci » ou bien « J'étais contente de passer du temps avec toi » ou « Tiens, j'aimerais bien que tu m'expliques comment ça fonctionne », de vraiment d'être toujours en lien, de ne jamais perdre le lien, même s'il est grognon, même s'il est ronchon, même s'il dit que on comprend rien et on est un peu nul, les parents. C'est pas grave, il faut vraiment attendre que ce temps passe et avoir beaucoup, beaucoup de compassion pour ça, parce que c'est un temps que nous, adultes, on n'aimerait pas revivre, le temps de l'adolescence. C'est quand même ce temps-là qui est assez ingrat.
Et vous dites...
pas perdre la relation et rester en lien, vraiment.
Voilà, vous dites que le plus grave, en fait, qui peut arriver, c'est de perdre le contact avec son ado.
Oui, absolument. Un ado qui ne vous parle plus, qui reste enfermé dans sa chambre, qui n'a vraiment plus de contact avec vous, là, il est temps de s'inquiéter. Il vaut mieux avoir un ado qui râle et qui grogne et qui dit « qu'est-ce qu'on mange ? On mange encore ça ?» mais qui est en lien qu'un ado qui est totalement coupé, parce que là, ça veut vraiment dire qu'on a perdu quelque chose et qu'il se sent très, très mal. Donc, gardons le contact, même si parfois c'est un peu rugueux.
Merci beaucoup Isabelle Payot. On rappelle que vous êtes psychologue spécialiste de la famille et des apprentissages. Et les auditeurs qui le souhaitent peuvent aussi retrouver des repères sur votre site internet. Il s'appelle lafabriqueabonheur.com. Merci beaucoup.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être jusqu'à 16h. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons intimité et vie affective avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler du syndrome du poster central. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connaissais pas.
Mais non, c'est quelque chose qui a été décrit pourtant en 1995, par un professeur de psychiatrie de l'Université du Texas, Gary Brooks. Il a même écrit un livre là-dessus. Et c'est une déformation de la sexualité masculine.
C'est-à-dire,
il y a plusieurs éléments dans le syndrome du poster central.
Alors, poster central, ça évoque un certain magazine.
Oui, exactement. Oui. C'est le poster central de Playboy, effectivement. Et effectivement, le premier élément de ce syndrome, c'est ce voyeurisme qui fait que pour les hommes, pour beaucoup d'hommes en tout cas, eh bien, ils aiment, comme le dit Alain Souchon, qui n'est pas sexologue, regarder sous les jupes des filles, voir enfin l'objet de leur désir. C'est quelque chose de, effectivement, très masculin. Et si Gary Brooks, lui, parle du syndrome du poster central, c'est évidemment évidemment, parce qu'il sait que la plémette du mois est achetée par des millions d'Américains, en tout cas l'était avant, maintenant ça a un peu changé depuis 25 ans, et que, effectivement, cette pulsion qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes, en revanche, on ne la retrouve pas chez beaucoup de femmes. Il y a peu de femmes qui sont prêtes à payer simplement pour voir des hommes nus, ça arrive, vous allez me dire, mais il y en a beaucoup moins, en tout cas, que les hommes. Et c'est cet élément aussi qu'on retrouve dans le syndrome du poster central, qui est la chosification, c'est-à-dire que la femme n'est pas vue comme un être à part entière, mais simplement comme un objet sexuel. On parle aussi parfois, d'ailleurs, d'objectification. Mmh. Ça, évidemment, ça pose un problème parce que c'est non seulement un reflet de la domination masculine hein, sur les femmes, puisque celui qui a le pouvoir est autorisé à voir, alors que l'autre est simplement l'objet. Et puis là aussi, sans nier bien sûr hein, le pouvoir érotique pour certains couples, des jeux de domination-soumission, eh bien là, on se retrouve dans un scénario où l'homme, de toute façon, ne cherche absolument pas l'individualité avec lui et développe des scénarios dans lesquels il y a un appauvrissement, parce qu'on est basé effectivement exclusivement sur une communication à sens unique, on regarde, mais on ne cherche pas un retour.
Donc ce que vous dites, c'est que ça conditionne la sexualité masculine ?
Oui, ça conditionne beaucoup de choses dans la sexualité masculine, parce que derrière ça, on va avoir des hommes qui vont simplement assimiler finalement leur sexualité à leur pouvoir de conquête. Il va y avoir ce qu'on appelle le trophéisme, c'est-à-dire que la femme est vue simplement comme un trophée. On cherche une femme qui est plus belle, qui est plus jeune que celle qu'ont les copains ou les autres hommes, simplement pour prouver sa virilité. Les hommes qui souffrent du syndrome du poster central ne cherchent à nouveau pas une relation, donc ils n'entrent pas dans une sexualité relationnelle, ils entrent vraiment dans une sexualité finalement qui est simplement possessive, possession d'un objet, mais absolument pas échange à double sens. C'est effectivement un appauvrissement et c'est simplement un poster qu'ils ont à leur bras.
Merci docteur Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours de 15h à 16h dans Sans Rendez-vous sur Europe 1. Demain, le dossier du jour sera consacré à la procrastination et on va vraiment en parler demain, je vous le promets. Damien, vous nous parlerez, vous
Des protections les plus utiles contre les méfaits du soleil.
Merci à vous docteur Damien Mascret. On se retrouve demain à 15h. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Googler qui vous emmène en voyage. Bonjour Philippe.
Bonjour Anne.
Nous partons où ?
Aujourd'hui, on va partir pour un petit pays qui a l'air de rien sur la carte, en bas à droite de l'Inde, je ne sais pas si vous voyez, une espèce de petite île comme ça, on ne fait pas attention.
Le Sri Lanka.
Absolument bien joué. Certains l'appellent la perle de l'océan et ce n'est pas un hasard, c'est le paradis des émotions de toutes sortes. Et on va vous raconter ça de 17h à 18h et juste avant, une autre destination rêvée en France, le pays d'Arles, Van Gogh, les Sainte-Marie-de-la-Mer, le cheval... La Camargue.
La Camargue. Bonne émission, Philippe Googler. On vous retrouve dans un instant.
À tout à l'heure.